Quand mes filles déménagèrent à Toronto, où leur père vivait et travaillait depuis des années, je découvris avec stupeur et gêne que je n'en éprouvais aucune douleur. Je me sentais au contraire légère, comme si c'était seulement à ce moment-là que je les avais mises au monde définitivement. Pour la première fois depuis près de 25 ans, je ne ressentis plus l'angoisse de devoir m'occuper d'elles. La maison resta rangée comme si personne n'y habitait. Je ne fus plus harcelée par les courses et les lessives à faire. La dame qui m'aidait depuis des années dans les tâches ménagères trouva un travail mieux rémunéré et je n'estimais pas nécessaire de la remplacer. Mon seul devoir envers mes filles, c'était de leur téléphoner une fois par jour pour savoir comment elles allaient, ce qu'elles faisaient. Au téléphone, elles s'exprimaient comme si elles vivaient déjà de manière indépendante. En réalité, elles habitaient avec leur père, mais, habituées à nous maintenir séparés l'un de l'autre jusque dans leurs propos, elles me parlaient comme s'ils n'existaient pas. Lorsque je les questionnais sur leur vie, elles me répondaient de manière évasive et plaisante, ou avec une mauvaise humeur pleine de silence agacé, ou bien encore en adoptant le ton artificiel qu'elles prenaient quand elles se trouvaient avec des amis. Elles aussi voulaient souvent me parler, surtout Bianca, qui avait avec moi un rapport plus exigeant, voire impérieux. Mais c'était seulement pour savoir si elles pouvaient mettre leurs chaussures bleues avec une jupe orange, pour me demander si je pouvais retrouver des papiers laissés dans quelques livres et les leur envoyer de toute urgence, ou pour voir si j'étais toujours disposée à les écouter déverser sur moi toute leur colère et tout leur malheur, malgré la distance entre les deux continents et l'immense ciel qui nous séparait. Nos conversations téléphoniques étaient presque toujours hâtives, et parfois elles sonnaient faux, comme au cinéma. Je faisais ce qu'elle me disait, je réagissais comme elle s'y attendait. Mais l'éloignement me mettant dans l'impossibilité matérielle d'intervenir directement dans leurs existences, exaucer leurs désirs et leurs caprices, se réduisit en fait à effectuer une série de gestes sporadiques, sans aucune responsabilité. Chaque requête me devint légère, et je vécus chaque tâche que j'accomplissais pour elle comme une touchante habitude. Je me sentis miraculeusement libérée, comme si une mission difficile, enfin menée à terme, avait cessé de me peser. Je commençais à travailler sans la cadence de leurs horaires et de leurs nécessités. La nuit, je corrigeais les mémoires de mes étudiants en écoutant de la musique. L'après-midi, je dormais beaucoup en mettant des boules-quies dans mes oreilles. Je mangeais une fois par jour et toujours dans un petit restaurant en bas de chez moi. Très vite, tout changea. Mes manières, mon humeur et même mon apparence physique. À l'université, je ne m'énervais plus parce que les étudiants étaient trop stupides ou trop intelligents. Un collègue que je fréquentais depuis des années et avec lequel parfois, rarement, je couchais, me dit un soir, perplexe, que j'étais devenue moins distraite et plus généreuse. En quelques mois, je retrouvai le corps mince de ma jeunesse et cela me donna une douce sensation de force. J'eus l'impression d'avoir regagné le juste cours de mes pensées. Un soir, je me regardais dans la glace. J'avais 47 ans, dans 4 mois j'en aurais 48, mais je vis qu'un tour de magie m'avait débarrassé d'un certain nombre d'années. Je ne sais si j'en fus heureuse, mais certainement j'en fus surprise. C'est dans cet état de bien-être inhabituel que, le mois de juin venu, j'eus envie de partir en vacances. Je décidai d'aller à la mer dès que j'en aurais fini avec les examens et les corvées administratives. Je fis des recherches sur Internet, je comparai photos et prix. Finalement, je louai un minuscule appartement, plutôt bon marché, sur la côte ionienne, de la mi-juillet à la fin août. En réalité, je ne réussis à partir que le 24 juillet. Je fis un voyage tranquille. L'auto était principalement chargé des livres qui me serviraient à préparer mes cours pour l'année suivante. C'était une belle journée, un air torride, plein de parfums d'été, entrait par les vitres baissées de la voiture. Je me sentis libre et nullement coupable de l'être. Mais à mi-chemin, alors que je prenais de l'essence, je fus tout à coup saisi d'angoisse. Autrefois, j'avais beaucoup aimé la mer. Mais depuis 15 ans au moins, prendre le soleil me rendait nerveuse et me fatiguait très vite. À coup sûr, l'appartement serait laid et la vue ne serait qu'un aperçu de bleu dans le lointain entre de sordides immeubles. Je ne pourrais pas fermer l'œil à cause de la chaleur et de la musique à plein volume provenant de quelques bars. Je fis le reste du trajet avec un brin de mauvaise humeur et en me disant qu'à la maison, j'aurais pu travailler confortablement tout l'été avec l'air conditionné et dans un immeuble silencieux. Quand j'arrivais, le soleil était bas sur le point de se coucher. Le village paraissait joli. Les voix avaient un accent agréable et il y avait de bonnes odeurs. Un vieil homme à l'épaisse chevelure blanche m'attendait. Il se montra respectueux et cordial. Il tint avant tout à m'offrir un café au bar, puis, à force de sourires alliés à des gestes décidés, il m'empêcha de porter le moindre sac jusqu'à mon logement. Chargé de toutes mes valises, il gravit les escaliers en soufflant jusqu'au troisième et dernier étage et il déposa mes bagages sur le seuil d'un petit appartement. Celui-ci était composé d'une chambre à coucher, d'une minuscule cuisine sans fenêtre donnant directement sur la salle de bain, d'un séjour doté de grandes baies vitrées et d'une terrasse d'où on voyait se déployer dans le crépuscule une côte hérissée de rochers et une mer infinie. Cet homme s'appelait Giovanni, ce n'était pas le propriétaire, mais une sorte de gardien ou d'homme à tout faire. Cependant, il n'accepta pas mon pourboire, et il en fut presque vexé, comme si je n'avais pas compris qu'il agissait simplement selon les règles de l'hospitalité. Lorsqu'il se retira, après s'être assuré à plusieurs reprises que tout allait bien, je découvris sur la table du séjour un grand plateau plein de pêches, de pruneaux, de poires, de raisins et de figues. Le plateau brillait comme dans une nature morte.